Allies. Johnny was a soldier all the way. Johnny was a soldier with a fun side. Johnny liked to laugh a lot each day. Johnny met a girl who was a beauty. Johnny never thought to live in sin. Do you take this girl? Yes, I take this girl. Johnny had a next of kin.
They were happy as they were, so everything around would change. But they were never worth a change. Well, it ain't 1918 except for these two. It ain't 1918.
Everybody in Missouri knows them. Everybody there has seen their car. Everybody's seen the Stanley steamer. Everybody knows it's Johnny's car. Where does Lucy Johnny drive to market to watch a bit of Pasco steaming by? Johnny and his bride, Johnny and his car, without change of any kind.
And they were happy as they were, so everything around would change. But they were never overchanged. Well, it ain't 1918 except for these two. It ain't 1918.
St. Lou are with thee, a lady by the name of Miller is. Wouldn't it be nice to help out Johnny, kind of play a real life Santa Claus? She and many other St. Lou people bought a Johnny quite a fancy car. And a modern home, threw away his comb, bought his wife a Paris scarf.
Johnny thanked the St. Lou folk, but told them in a voice so sad that he would rather stay as is. The people of St. Lou would mad, they said. For us or for you, if we can't enjoy it, then neither will you.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui commence avec un morceau des Sparks, je vais pas le prononcer en anglais parce que je suis fatigué, 1918, donc on n'est pas en 1918. Et pourtant ce soir, évidemment, comme je habituellement nous le fait, donc c'est un morceau de 75, donc évidemment c'était pas un morceau de 1918, hein. Les Sparks ils sont super intelligents. Et par contre, là où ils ont pas été intelligents, c'est qu'ils savaient pas que ce soir on allait présenter un livre consacré à après 1918. Donc en fait, ils avaient prévu, puisque c'est pas non plus 1918. Enfin bref. Alors, ici, donc c'est un livre que Jean-Mathias va nous présenter, de Daniel Schoenflug.
Schoenflug.
D'accord, ça me fait penser... Enfin bon, peu importe, à Papy fait de la résistance et au général à Apfelstrudel. Mais je suis désolé. Alors, désolé Jean-Mathias, je ruine un peu la présentation de du livre, hein, mais bon, Apfelstrudel quand même c'est quelque chose. Ensuite, alors la guerre de 1918, il était temps d'en parler. Ici, ça va être un livre donc, qui ne consacrait pas à la guerre elle-même, mais évidemment aux espoirs qu'a pu peut-être susciter la fin de cette guerre et qu'on avait appelé la guerre des Ders. Et en se disant que justement, peut-être qu'après une calamité, une catastrophe pareille, on pourrait repartir sur de nouvelles bases. Et c'est vrai que d'un point de vue artistique, mais aussi philosophique et politique, cette abomination qui a été la guerre de 14-18 a provoqué tout un tas de choses en Europe qui ont été extrêmement intéressantes. Ça n'a pas seulement été, si vous voulez, comme écrivait Stefan Zweig, le monde d'hier. On s'est imaginé à l'époque aussi un monde d'après. Et comme à d'autres époques, le monde d'après s'est révélé sans doute très très décevant. Mais et donc là, le livre de Apfelschrödel,
Daniel Schönflug.
Daniel Schönflug, donc à la librairie Vuibert, Le Temps des Comètes, présente une galerie de portraits. De tout un tas de gens un peu partout dans le monde et qui vont avoir une influence assez décisive sur la poursuite de l'histoire.
Alors, pas forcément. Non, mais qui témoigne en fait. C'est une espèce de. Alors, il est historien, Daniel Schönflug, là. Il travaille à l'université de Berlin. Donc, c'est un bouquin d'histoire, en gros, les cinq années entre l'armistice de 18 et puis il s'arrête en 1923.
D'accord. Et alors, c'est pas consacré, par exemple, qu'un pays comme l'Allemagne, parce que très très souvent, dans l'histoire européenne, ce qui est marquant entre 18 et 23, c'est l'histoire de l'Allemagne, avec Weimar, avec la révolution
allemande et tout ça. D'abord, c'est un livre qui est très accessible, hein, je le dis tout de suite là, parce que c'est pas du tout un. Alors, c'est un travail d'universitaire, c'est-à-dire qu'en fait, il a travaillé, si tu veux, il a. Alors, j'ai compté, en gros, il y a plus d'une vingtaine de personnages qui sont en fait décrits en parallèle. En fait, et pour écrire le livre, en fait, il a fait son travail d'historien, donc il a été travailler sur des archives et sur des monographies d'historiens aussi. Et il mêle en quelque sorte, si tu veux, c'est des portraits très personnalisés qu'il fait à chaque fois. Et c'est en fait l'événement ou tel événement vu à travers les yeux d'eux. Et alors donc non, c'est pas du tout centré sur l'Allemagne ni même sur l'Europe, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que t'as une approche. Alors d'abord, t'as une construction comme ça un peu en fresque, tu vois, avec ces personnages que tu vas suivre comme ça tout du long du livre jusqu'en 23. Et c'est un peu ça l'idée. Et c'est une approche qui est aussi complètement mondiale, c'est-à-dire qu'en fait tu as des Français, tu as des Allemands, tu as des Anglais, tu as des Irlandais, tu as des Américains, tu as des Afro-Américains, tu as des Indiens, tu as des Vietnamiens, tu as des Arméniens, t'as des Autrichiens, donc en fait c'est une espèce comme ça de, il essaye de mesurer, si tu veux, un petit peu l'écho de l'événement armistice 1918 à partir des Américains, bien sûr, je l'ai dit, hein, mais à partir comme ça de différents témoins. Alors t'as des témoins très connus, hein, bien sûr. Alors par exemple il te parle de Foch, il te parle de Gandhi, il te parle de Lawrence d'Arabie, il te parle du futur président d'un futur président des États-Unis, du futur Ho Chi Minh également. Donc t'as comme ça des personnages extrêmement extrêmement célèbres qui ont été des figures, si tu veux, mais t'as aussi des gens beaucoup moins connus, hein, par exemple, mais qu'ont joué un rôle, si tu veux, mais un rôle à une échelle beaucoup plus anonyme, hein. Par exemple, il te parle d'une infirmière américaine qui a été à l'origine du symbole du coquelicot, qui dans le monde anglo-saxon est justement un petit peu le symbole. Alors il explique l'histoire de ce symbole là justement de la renaissance espérée après 18, et qui est devenu en fait une espèce de marqueur, alors à la fois chez des associations d'anciens combattants partout dans le Commonwealth et aux États-Unis, mais aussi beaucoup dans le mouvement pacifiste en fait américain. Il suit aussi des musiciens afro-américains qui étaient en fait dans les troupes américaines sur le front français et puis jusqu'au Rhin et après l'armistice, et qui ensuite reviennent. Et puis alors t'as aussi des Américains blancs, bien sûr. Et alors, hyper intéressant de voir évidemment comment le retour au pays se fait de manière extrêmement contrastée. Et alors bon, il y a cette espèce de moment un peu héroïque après la victoire, après l'armistice, où en fait tout le monde, il y a que des héros. En fait, très très rapidement, en fait, les héros changent un peu de statut selon la couleur de leur peau, par exemple, et bien sûr, pas qu'un peu. Voilà. Donc t'as tout ça, et puis t'as cette espèce, et ça c'est hyper intéressant aussi. C'est en fait l'onde de choc, si tu veux, de cette Première Guerre mondiale et de la défaite en fait de l'Allemagne partout dans les empires coloniaux. Alors empire français, bien entendu, donc avec cette espèce de trajectoire là du futur Ho Chi Minh, mais aussi dans le monde arabe. Alors vu là du point de vue de Lawrence d'Arabie, qui est un petit peu un point de vue d'élite, je dirais. Mais cela dit, qui est intéressant, moi j'ai appris des tas de choses, parce que sur la figure de Lawrence d'Arabie, alors il y a la figure un petit peu, si tu veux, tu vois, légendaire, mythifiée, d'avant la guerre, si tu veux, effectivement, comment Lawrence se devient une espèce de figure un peu hybride, comme ça, dans le monde arabe. Mais après, au moment des accords de Paris, après l'armistice, en fait, c'est le principal relais des autonomistes arabes au moment dans les accords de Paris. Et en fait, il va se faire dégager, si tu veux, et en fait toutes les revendications dont il est porteur ne vont pas aboutir, hein, donc il y a ça. Et puis t'as Gandhi, hein, qui est aussi effectivement un des personnages mis comme ça. Et alors t'as aussi une fille de Cosaque qui en fait est brinque-ballée en fait à travers la toute nouvelle Union soviétique, si tu veux, qui va traverser la Sibérie dans un train avec des troupes tchèques, donc faisant le coup de feu régulièrement contre les bolcheviks, parce qu'en fait ils sont plutôt sous allégeance blanche, mais en fait qui va se retrouver complètement de l'autre côté, qui finit en fait par après main de péripéties par finir sa vie au Japon, en fait, voilà. Donc elle aura traversé comme ça toute l'Union soviétique en pleine guerre civile pendant 5 ans avant de trouver une place comme ça. Et du coup, alors du côté arménien c'est pareil, alors c'est bon, on suit un révolutionnaire arménien, en fait, qui fait partie d'une congrégation qui s'est jurée de venger le génocide arménien, qui est tout frais, si on peut dire, ou tout chaud, je sais pas comment il faut dire, et qui se sont donc jurés, en fait, d'éliminer le maximum, si tu veux, de dignitaires du gouvernement turc partout dans le monde, partout en Europe, et qui donc officie, lui, à Berlin, en l'occurrence, et qui va se descendre, hein, voilà, son turc.
Son ambassadeur.
Voilà. Et puis côté allemand, bien sûr, bon, il est allemand, hein, Schönflug. Donc en fait, t'as comme ça un certain nombre de figures hyper intéressantes aussi, parce que t'as du coup, tu as des soldats démobilisés, alors qu'ils vont... Il se suit pas, si tu veux, t'as deux personnages en parallèle, assez intéressant d'ailleurs, qui en fait, les deux sont des anciens combattants, les deux dépités, si tu veux, par la chute de l'Empire, qui vont tous les deux passer dans les corps francs, c'est-à-dire en fait ces mouvements d'anciens combattants nationalistes qui vont servir à mater en fait la révolution communiste allemande en 1917 et en 1918, pardon, 18 et 19. Et puis sauf que t'en as un des deux qui en fait lui va en fait se rapprocher plutôt de la social-démocratie, et puis un autre qui va rester dans les corps francs et qui finira en fait dirigeant du camp d'Auschwitz, voilà, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et puis, t'as aussi tout un tas de figures, alors bon, qui sont aussi plus connues, mais c'est dans le monde artistique, là, pour le coup. Alors, donc, t'as Gropius, un des fondateurs du Bauhaus allemand. Il y a Schönberg, le compositeur autrichien. T'as la veuve de Mahler, aussi le musicien autrichien, là, qui était la femme de Gropius, en fait. T'as des intellectuels comme Louise Weiss, qui est une journaliste qui a fini politique après la libération, après 45, et qui est en fait une des pionnières de l'idée européenne. T'as Virginia Woolf aussi, donc à Londres, ce qui fait du coup c'est comme ça, tu vois, une espèce de livre à entrée vraiment multiple en fait sur l'événement. Et alors il raconte effectivement un peu, bon, le fil rouge qu'il y a entre tout ça, c'est un peu effectivement ce que tu as dit au début, c'est-à-dire cette espèce d'espoir, de der en fait, d'en finir, si tu veux, avec le monde qui a conduit à cette boucherie là, hein, et donc effectivement avec des espoirs démesurés un peu de partout, et l'espoir qu'effectivement après 16 millions de morts, et ben en fait on va pouvoir enfin réfléchir sérieusement à autre chose, quoi, hein. Il y a ça. En même temps, dès le début, il te montre évidemment du point de vue des états-majors que ben c'est pas du tout l'agenda qui est prévu, hein, et que effectivement il y a une restauration des empires du point de vue des vainqueurs anglais, français qui prime. Le souci aussi évidemment d'en finir une fois pour toutes avec la menace allemande. En même temps, les appétits américains qui s'aiguisent. Et puis effectivement, ça mis en miroir avec les aspirations des coloniales en fait, hein, qui démarrent et qui vont s'amplifier effectivement à partir de là, mais qui vont être contraintes de patienter pour la plupart encore quelques décennies, quoi. Donc t'as quand même toutes ces entrées là qui te donnent du coup une lecture qui est assez chouette, je trouve, donc avec ces espoirs et puis des illusions, si tu veux, hein, sur la fin. Et ça donne un livre que je trouve assez assez instructif. Alors c'est pas si tu veux c'est pas des analyses théoriques très très poussées, c'est pas très spéculatif, etc. hein, il y a un sérieux travail sur les archives, mais c'est plus comme ça des espèces de tranches biographiques si tu veux très 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 documentées hein, et qui te permettent comme ça voilà une espèce d'éclairage un peu choral là comme tu disais sur ces 5 ans assez décisif. Alors décisif pourquoi? C'est difficile à dire parce que si tu veux, en fait, il finit. Alors bon, c'est assez difficile à raconter si tu veux, parce que comme tu vois, t'as tout un tas de comme ça de points de vue diffractés. Oui, alors il y a le cas de l'Irlande aussi dont j'ai parlé, voilà, que j'ai évoqué. Alors c'est pareil, il suit comme ça aussi. T'as deux personnages, deux indépendantistes irlandais, dont une des premières figures en fait, si tu veux, de l'indépendance, un des premiers morts par grève de la faim dans les prisons britanniques là en fait, qui est donc suivi aussi. Et donc si tu veux, le mieux, mais c'est ce que je vous proposerai après, c'est de lire tu vois certains passages pour avoir une idée un petit peu du cadre et puis de l'évolution et puis d'événements un petit peu clés comme ça pour se faire une idée du style, parce qu'évidemment c'est une période hein, mais en fait c'est une multitude d'événements qui sont diffractés comme ça à travers différents regards et différentes perspectives, donc c'est un peu ça le projet si
d'accord et le point de vue il est j'ai l'impression que dans ton exposé là j'ai l'impression qu'il y avait deux peut-être choses où on pourrait se poser la question l'Amérique du Sud, l'Afrique.
L'Afrique pas trop, le monde arabe et l'Afrique pas trop, l'Afrique il en parle pas trop et l'Amérique du Sud non plus. Ça c'est effectivement tenu un petit peu
parce que l'Inde il en parle à travers Gandhi.
Oui.
La Chine
n'en parle pas non plus. Il n'en parle pas non plus, effectivement.
Donc ça peut aussi parler de l'impact de la Première Guerre mondiale. Est-ce que
c'est du point de vue des alliés et des vaincus, c'est-à-dire d'accord. qu'effectivement t'as quand même un prisme comme ça du point de vue des belligérants principaux, je dirais, tu vois, belligérants et de leur voilà d'une partie de leur vassaux, je dirais, coloniaux, hein, en fait. Oui. Il y a un peu ça. Et alors, après, t'as un point qui est intéressant, mais bon, qui est pas forcément révolutionnaire, mais par rapport à l'historiographie française, t'as quand même un truc qui se dégage clairement, c'est l'idée que la paix post-armistice, en fait, les accords de Paris est une paix foireuse, quoi. Voilà, ça, c'est assez clair. Alors, venant de la part d'un Allemand, donc effectivement, on peut s'en douter, mais c'est vrai que...
En même temps, c'est pas le seul à le dire. Ils sont quand même pas le seul à le dire.
Que c'était des accords de merde.
Mais t'as quand même le sentiment. Alors ça, c'est quand même un truc. Mais effectivement, du point de vue historique, si tu veux, ouais, voilà, du point de vue de Cyrus, hein, si je puis dire, t'as quand même effectivement ce truc-là qui se dégage, quoi. Le fait de dire que si tu veux, il n'y a pas eu, enfin les espaces qui ont été ouverts et les opportunités qui se sont ouvertes à ce moment-là, si on laisse de côté ou si on voilà les appétits impériaux et puis le souci de restaurer un petit peu la grandeur impériale des vainqueurs, si on met ça de côté, les espoirs, les opportunités étaient réels, quoi, si tu veux, et qu'effectivement on est passé à côté de ça, et qu'en fait au lieu effectivement d'être une espèce d'étape historique qui t'ouvre vraiment une période précise, en fait tu accentues une crise qui a été ouverte par la guerre en réalité, hein. Et t'as vraiment le sentiment effectivement du coup, alors c'est ça qui est un peu troublant, parce que c'est à la fois, tu l'as dit, hein, bon ça c'est un aspect qui est super passionnant, c'est ce moment de toutes les avant-gardes européennes en fait qui explosent de partout, enfin pas simplement européennes, parce que tu as les mêmes en Russie évidemment, hein, avec la révolution bolchevique, donc les avant-gardes en Allemagne, voilà, en France aussi, partout, hein, et du point de vue de l'histoire esthétique, de l'histoire des arts, c'est absolument fascinant en fait ce qui se passe là-dedans, et en même temps du coup
et
tu
aussi
dis,
du point de vue philosophique.
Et du point de vue philosophique, à tout point de vue culturel. Bon, voilà. T'as ça. Et en même temps, effectivement, ce qui est dominant, c'est que clairement, t'as une occasion manquée énorme, quoi. Alors, du coup, c'est, tu vois, t'étais un peu, tu restes sur une espèce de truc un peu mitigé, parce qu'effectivement, cette espèce de bouillonnement, voilà, culturel dans tous les domaines que tu observes, il est très noir, quoi. Il est très, très noir, en fait, du point de vue de, quand même, sur le fond, et en fait, avec des raisons, quoi. Avec des raisons, et il est finalement plutôt annonciateur de la suite, c'est-à-dire, voilà, de l'arrivée d'Hitler, enfin, des totalitarismes, et des génocides totalitaires, 30 ans plus tard, quoi.
D'une certaine 30 ans, manière. Et encore même pas, parce que ouais. si tu prends l'Italie, c'est 4 ans plus tard, 4-5 ans plus tard.
C'est ça. Donc, alors, il parle pas d'Italie, là. Là, il n'en parle pas. Il n'y a pas de figure.
C'est dommage.
Italienne, oui,
peut-être
c'est dommage.
Manque,
ouais, c'est vrai,
pour
ouais.
le coup.
Oui, c'est vrai. Non, il parle des Tchèques, t'as un personnage aussi. Enfin, c'est voilà.
Parce que l'Italie, c'est quand même ouais. une pièce essentielle dans ce
oui,
puzzle.
Oui, c'est clair. Ben, bon, ouais, du point de vue de l'Empire, t'as. Mais c'est centré quand même là-dessus, sur les empires et les répliques, en fait. Il y a peut-être un côté un petit angle mort de ce côté-là. Enfin voilà, pour une présentation un petit peu générale du livre, on peut peut-être faire une première pause, et puis après
tu me présenteras des passages.
On jouera un peu voilà, sur certains personnages et certains passages.
Un petit zoom.
Musique.
Dans mon avion bleu et gris, je sautais dans les nuages. Possible ennemi qui m'a pris en traître, comme c'est dommage. Il a ouvert le feu sur moi et je me suis retrouvé là, la tête dans les nuages, avec du sang qui coulait de mon front. Après la guerre, je ferai une grande vedette. Après la guerre, je ferai une grande vedette. Et mon cockpit s'est embrasé, et mon visage s'est enflammé. Mes cordes vocales se sont brisées, tandis que mon avion tombait. Je me suis échappé dans les airs et me suis mis à voler sans un bruit, le corps en l'air, suspendu à un morceau de tissu. Après la guerre, je serai une grande vedette. Après la guerre, je serai une grande vedette. Les efforts me faisaient de la peine. Ici les infirmières sont gentilles, elles disent toujours tu guériras. Mais moi je sais qu'il y a ce vide dans ma cervelle du côté droit. Après la guerre, je serai une grande vedette. Après la guerre, je serai une grande vedette. Après la guerre, je serai une grande vedette. Après la guerre, je serai une grande vedette.
Claire pointée partout sur...
Chut. Alors, donc Jean-Mathias disait des horreurs.
Non, je disais rien.
Il disait rien. Et donc, c'est Jeudi Noir qui se poursuit sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et Jean-Mathias nous a présenté. Alors, vous venez d'entendre un morceau des Brochettes, un groupe belge, et un morceau de 1998, donc un groupe qui s'appelle Après la guerre.
Pourquoi après la guerre?
Parce que Jean-Mathias vous présente Le Temps des Comètes, un livre de Daniel Schoenflug à la librairie Vuiver. Et donc José m'accuse de germanophobie primaire, voilà. Et donc Jean-Mathias nous a présenté un petit peu le principe du livre, qui est de suivre des...
toute une série de personnages.
Toute une série de personnages réels, des personnages de fiction qui finalement nous offrent une espèce de point de vue et des parcours dans l'Europe, essentiellement l'Europe, mais pas que, puisqu'il y a l'Inde, il y a d'autres pays, une partie du monde en tout cas, qui a été vraiment touchée.
L'Inde, le Vietnam, le monde arabe.
Le monde arabe, qui ont été touchés, la Russie, qui ont été touchés donc par la guerre, et voir en quelque sorte qu'est-ce qui se dessine dans ce monde justement qui surgit après la guerre.
Qu'est-ce qui s'ouvre et qu'est-ce qui se ferme.
C'est ça. Sachant que, évidemment, c'est un monde dans lequel il y a énormément de bouleversements et dans lequel on peut placer beaucoup d'espoir entre la révolution bolchevique, les débuts de la révolution allemande, et tout un tas d'autres événements fondamentaux.
Oui, je disais, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Enfin, je le conseille vraiment, parce que c'est très agréable à lire, parce qu'il y a comme ça toute une échelle de points de vue. Le mieux, peut-être, difficile à raconter en même temps, bien sûr, mais le mieux, de vous lire peut-être quelques passages. Alors, d'abord, deux mots sur le temps des comètes. Alors, sur le titre, qui est rhétorique, qui est joli, voilà. Alors peut-être pour expliquer ça, il y a notamment dans les premières pages, en fait, il y a quelques reproductions en fait de différents artistes de la période là au début. Et la première, en fait, c'est un dessin de Paul Klee qui s'appelle la comète de Paris et qui est un dessin de 18 et qui en fait explique en fait le choix du titre. Alors, peut-être vous lire le passage là-dessus qui résume un peu de manière un peu littéraire, si vous voulez, un peu le projet du livre. Alors, il écrit ça comme ça, là, page 15, on est là, on dit « En 1918, Paul Klee a pris pour thème de la comète de Paris, aquarelle aussi ironique qu'emblématique, cet instant à cheval entre passé et avenir, entre réalité et projection. » Qu'est-ce que vous voyez? Je décris rapidement le dessin quand même. Vous avez la tour Eiffel, schématisée en bas, donc Paris, voilà. Et puis, vous avez dans les cieux, une espèce de personnage un peu mégacéphale, avec sur la gauche de sa tête une espèce de comète là qui a avec sa queue qui est en train de suivre un mouvement circulaire, et puis vous avez une deuxième comète en fait qui a l'air de descendre de manière beaucoup plus brutale et plus agressive en direction du personnage puis du sol, et qui elle est symbolisée par une étoile de David. C'est comme ça que se présente le dessin, et alors il est décrit comme ça par l'auteur là du livre. Il décrit dans une aquarelle aussi ironique qu'emblématique cet instant à cheval entre passé et avenir, entre réalité et projection. Il parle de 18. Quand on l'observe attentivement, on se rend compte que ce dessin à la plume aquarellée de Klee, alors soldat de l'école d'aviation royale bavaroise, ne représente pas une comète mais deux. Une première, verte, à longue queue, et une seconde qui prend la forme d'une étoile de David. C'est ce que je vous décrive à l'instant. Elle gravite autour de la tête d'un funambule qui, tenant une perche entre ses deux mains, évolue en équilibre sur un fil invisible tendu au-dessus de la tour Eiffel. C'est l'un des nombreux feuillets que Paul Klee réalisa durant cette période et qui représente des astres au-dessus de villes. Comme si souvent, l'artiste se comporte en illustrateur d'idées. Sur ce dessin, le lointain Paris, qui est la capitale de l'ennemi mais aussi la patrie des arts, fait figure de Bethléem moderne. La comète, depuis toujours et plus particulièrement dans l'atmosphère précaire tendue de ce début du XXe siècle, apparaît comme le signe de l'imprévisible, comme annonciatrice de grands événements, de transformations radicales, de catastrophes même. Elle symbolise la perspective de possibilités insoupçonnées, d'avenirs inconnus. La petite sœur de la comète, l'étoile filante, invite à faire un vœu. En revanche, un phénomène céleste apparenté, la météorite qui se précipite vers la Terre, effraie par son pouvoir de destruction. Rappelons qu'en 1910, le monde a vécu en l'espace de quelques mois le passage des comètes de Johannesburg et de Halley, et que sur tous les continents, les plus angoissés des mortels s'étaient préparés à la fin du monde. Peut-être ces événements, auxquels on puisse ajouter les rapports sur l'impact de la météorite de Richardson dans le nord du Dakota le 30 juin 1918, auront-ils inspiré cette œuvre à Klee. Son funambule se tient en équilibre, à mi-chemin entre la merveille terrestre qu'est la tour Eiffel et les astres, gros de promesses autant que de menaces. En suspens, il n'appartient entièrement à aucune de ces sphères, le funambule. Il a la tête dans les nuages et risque pourtant à tout moment de chanceler et d'être précipité dans le vide. Avec les étoiles qui dansent autour de sa tête, il y évoque un homme ivre plutôt qu'inspiré. Son regard chaviré pourrait indiquer que les astres qui cernent son front lui font tourner la tête, augmentant encore les risques de chute. C'est ainsi qu'avec la comète de Paris, Paul Klee offre un symbole ironique de la vie en cette année 1918, vibrant entre enthousiasme et défaitisme, entre espérance et appréhension, entre vision ambitieuse et cruelle réalité. Ceux qui croyaient au caractère annonciateur des comètes pouvaient voir la réalisation de prophéties stellaires en ce 11 novembre 1918, jour de l'armistice, alors que la vieille Europe était tout à la fois en miettes et en fête, que des révolutions la secouaient, que de grands empires s'effondraient et que vacillait l'ordre du monde. En même temps, en cet instant de grand chambardement, on assista à une véritable pluie d'étoiles filantes de projets d'avenir. Rarement l'histoire eut l'air aussi ouverte, aussi contingente, aussi dépendante de décisions purement humaines. Rarement il parut aussi indispensable de convertir promptement les leçons des erreurs du passé en concepts d'avenir. Rarement, en présence d'un monde en mutation, il sembla aussi inévitable de s'investir et de lutter pour imposer ses visions. On conçut alors de nouvelles idées politiques, une nouvelle société, une culture et un art nouveau. On proclama l'avènement d'un homme nouveau, l'homme du XXe siècle, né dans les flammes de la guerre et affranchi des chaînes du vieux monde. Tel un phénix, l'Europe, voire le monde entier, devait se relever de ses cendres. Le carrousel des possibilités tournait si vite que de nombreux contemporains furent pris de vertige. Donc voilà, c'est un peu ça l'ambiance, le ton. Vous voyez pas, c'est pas de l'histoire théorique.
Non, mais il y a une allusion à Walter Benjamin.
Alors il n'en parle pas, non. On échappe à ça. On échappe à ça avec
le commentaire d'une œuvre de Clé en ouverture d'un livre d'histoire.
Oui.
C'est du Benjamin, mais bon, c'est l'ange de l'histoire.
Bien sûr. Alors là, c'est pas. Je trouve ça intéressant parce que je trouve ça moins prétentieux et moins chargé de présupposés, si tu veux. Enfin, tu vois. Là, pour le coup, c'est.
C'est vrai que je te posais la question parce que
on est dans la langue ordinaire.
Parce que c'est chargé, malgré tout.
Bien sûr. Mais en l'occurrence, tu vois, la référence à Benjamin, elle y est pas. D'accord. Et puis effectivement, là. Il met effectivement, voilà, le point commun c'est qu'il met les gravures.
Et... Pour les auditeurs et les auditrices qui l'ignoreraient, Walter Benjamin était un auteur, une espèce de marxiste mystique
allemand
inspiré beaucoup par l'école de Francfort et qui est mort pendant la guerre justement. Il s'est suicidé parce qu'il pensait se faire arrêter par la Gestapo. Et c'est quelqu'un qui a commenté justement, qui a écrit un livre sur le concept de l'histoire où il commentait l'ange de l'histoire vu par Paul Klee. Donc comme c'est une vision de l'histoire qui peut sembler parfois théorique, il semblait que
possible. Il y a peut-être un clin d'œil ou un choix là de référence un peu différent.
Et comme tu dis, c'est quelque chose qui est très très différent de Walter Benjamin, c'est-à-dire Benjamin c'est souvent extrêmement abstrait, c'est quand même un peu cryptique comme écriture.
Ouais. C'est pas du tout le cas ici. Là,
alors que c'est pas du tout le cas. Okay. Ouais.
Alors du coup après, je sais pas dans les extraits, il y aurait beaucoup à lire, évidemment. Bon, alors, une petite sélection peut-être. J'ai parlé tout à l'heure, là, en fait, parce que ça, c'est un aspect intéressant aussi du livre. C'est il y en a plusieurs, il y a au moins deux, voire trois personnages de mémoire qui en fait sont présentés en parallèle comme ça dans le livre, dont la trajectoire est présentée et qui sont donc des musiciens afro-américains enrôlés dans les troupes US qui combattent en Europe, en France et puis jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et dès le départ, en fait, ça fait partie des premiers personnages qui sont présentés dans le roman. Alors peut-être lire aussi un petit passage là-dessus pour expliquer à la fois la manière dont ils vivent, dont justement on peut vivre la nouvelle de l'armistice du 11 novembre avec ce regard-là. Alors là, c'est le personnage qui s'appelle Arthur Little. Tout ça, ce sont des personnages réels. Il n'y a aucun personnage fictif. C'est tous des personnages qui ont réellement existé. Alors, il est présenté de cette manière-là. Donc, on est aussi un peu plus loin, mais toujours au début du livre. Pour Arthur Little, nous dit l'auteur, l'euphorie a débuté dès la veille, le 10 novembre 1918. Officier, alors oui, non, lui est pas le Arthur Little est un Américain mais blanc, si j'ai bien compris. Mais vous allez voir le lien après avec le régiment. Donc officier du 369e régiment américain d'infanterie, il s'est accordé un jour de permission pour entreprendre une excursion tout à fait particulière. Ayant emprunté une automobile, il rejoint une unité blindée à quelques 8 km de Langres. À son arrivée, il prend contact avec l'officier de service, il lui expose sa requête et est invité à déjeuner. On fait ensuite appeler un certain sergent Little. Le jeune homme apparaît, se met au garde à vous, devant l'officier, salue et commence son rapport. Mais voilà qu'au milieu d'une phrase, il s'interrompt brutalement. Les yeux écarquillés, il dévisage son supérieur et il lui faut quelques secondes pour reprendre son sang-froid et réussir à balbutier. « Oh père, quelle joie de te voir, on m'avait dit que tu étais mort. » Les deux hommes tombent dans les bras l'un de l'autre. Ils regagnent Langres ensemble, retrouvailles entre le père et le fils, voilà, au milieu du chaos de la guerre, là, la veille de l'armistice. Ils regagnent Langres ensemble, envoient un télégramme aux États-Unis à la mère du sergent, font un bon dîner et vont au théâtre avant de passer la nuit dans un logement de la YMCA. Le jeune sergent revient à peine du combat, ça fait des semaines qu'il n'a pas dormi dans un vrai lit. Dès qu'il pose la tête sur l'oreiller, il sombre dans un sommeil si profond que, le lendemain matin, au moment où son père doit repartir, il lui est impossible de le réveiller. Il laisse donc son fils au lit, la conscience tranquille, il peut dormir en paix. En ce 11 novembre 1918, le père sait que le fils ne retournera plus sur le champ de bataille. Fort de cette heureuse certitude, Arthur Little regagne son bataillon. Ce n'est pas une unité comme les autres. Les soldats américains qui y servent et sont placés sous commandement français sont issus de la garde nationale new-yorkaise. Et la plupart sont des Afro-Américains de Harlem. Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'Amérique s'est décidée à intégrer des Noirs dans son armée. Seule l'effroyable pénurie d'hommes a convaincu les États-Unis de les mobiliser. Leur formation était très différente de celle des autres soldats. Ils ont été réduits à faire l'exercice sur des places publiques, dans des salles de sport et de bal de Harlem. Et, au lieu d'armes réelles, on ne leur a confié que des pelles et des manches à balai. Rares sont ceux qui ont obtenu des postes de commandement. Combien de regards en coin, de remarques désobligeantes, de gestes humiliants n'ont-ils pas dû essuyer dans un pays qui n'avait mis fin à l'esclavage que quelques années auparavant ? Et où régnaient la discrimination et les conflits raciaux. Les soldats noirs n'ont pas été autorisés à participer à un défilé de la garde nationale de New York, le Rainbow Regiment, le régiment arc-en-ciel. Le noir ne fait pas partie des couleurs de l'arc-en-ciel, leur ont expliqué les organisateurs. La confiance n'a pas été plus grande à leur arrivée de l'autre côté de l'Atlantique. On leur a fait décharger les bateaux, creuser les tranchées, enterrer les morts après les batailles. La situation n'a évolué que lorsque le 369e régiment a été placé sous commandement français. Les Français, qui avaient une longue expérience de la mobilisation de soldats originaires de leurs colonies africaines, n'ont pas hésité un instant à armer les soldats noirs et à les envoyer en première ligne. Les hommes de Harlem ont rapidement prouvé qu'ils n'étaient pas des inférieurs à leurs camarades blancs. Ils ont montré qu'ils étaient des combattants opiniâtres et les Allemands ont appris à les craindre. On les a surnommés respectueusement les Harlem Hellfighters, donc les combattants de l'enfer de Harlem. Et plusieurs hommes de cette unité sont entrés dans la légende. Alors, c'est un nouveau personnage qui entre en scène et qui va effectivement être suivi tout au long du livre. Le plus grand de ces héros, le soldat Henry Johnson, était d'assez petite taille. Avant la guerre, il travaillait comme porteur à la gare d'Albany dans l'état de New York. Pendant sa formation, au cours des premiers mois du conflit, il s'était surtout fait remarquer par sa langue bien pendue. Mais nu, il était de faction en première ligne, il avait accompli un exploit peu commun. Et vous allez voir après que, je fais une parenthèse là, mais que c'est justement autour de cet exploit que la figure du héros noir va en quelque sorte monter en puissance là pendant les mois et pendant une période relativement courte aux États-Unis, parce qu'on tient enfin un héros noir, et en même temps la manière dont elle va faire pchit très très rapidement, en fait, cette figure-là. Alors, quel est l'exploit hein, qui le met en scène comme héros ? Alors, un commando allemand, hein, c'est ça qui va le rendre célèbre, un commando allemand chargé de mener des attaques surprises avait repéré la position que Johnson tenait avec un camarade et était passé à l'offensive. L'autre avait été touché par une balle dès le début de l'échauffourée, laissant Johnson résister seul à l'agression. Il était cependant bien décidé à tenir sa position et à sauver son compagnon. En se servant de son fusil, de grenades et finalement d'un pistolet et d'un couteau, Johnson avait tué plus de 20 Allemands et avait fini par mettre les agresseurs en fuite. Victime d'innombrables blessures, Johnson fut le premier héros de guerre noire de l'histoire américaine. Le Saturday Evening Post lui-même relata les exploits de celui qu'on surnomma Black Death, la mort noire. Un autre noir dont la célébrité dépassa largement les rangs des Harlem Hellfighters fut un officier du nom de James Rees, Europe, qui dirigeait l'orchestre du régiment. Avant la guerre, il était à la tête du Society Orchestra, un groupe de ragtime new-yorkais réputé. Il interprétait des marches, des danses, des chansons populaires dans des arrangements personnels au syncope torride. Voilà. Nous dit le traducteur. Le Society Orchestra avait été l'un des premiers bands à utiliser des saxophones et il jouait le foxtrot au nid des classes moyennes blanches qu'il portait à une incandescence dans les nightclubs de Harlem. James Rees Europe fut l'un des tout premiers musiciens noirs à enregistrer un disque pour un label, la Radio Corporation of America, et l'un des premiers lieutenants noirs à partir pour la guerre, à la tête d'une fanfare militaire de plus de 40 membres. Dès leur arrivée à Brest, ils se lancèrent dans une version jazzy de la Marseillaise qui fit transpirer à grosses gouttes les auditeurs français venus les accueillir au port, et ce n'était qu'un début, dit-il. Alors donc il se retrouve avec le personnage précédent. Après 5 mois au front, durant lesquels James Rees put découvrir la guerre des tranchées sous son aspect le plus hideux, ce qui lui inspira ultérieurement le ragtime On Patrol in No Man's Land, la direction militaire décida que le jazz serait plus utile aux Français qu'une quarantaine de soldats noirs et portoricains de plus dans les tranchées. L'orchestre des Harlem Hellfighters fut alors séparé de son unité et muté à Paris. Pendant plusieurs mois, il se produit dans les théâtres, les salles de concert, des parcs, des hôpitaux de la capitale. Les gens n'en revenaient pas. Les Parisiens n'avaient encore jamais entendu de jazz, et les rythmes entraînants, les contretemps et les syncopes du ragtime, les blue notes et les glissandi des mélodies, les saxophones allègres et le son nasillard des trompettes bouchées, plongeaient les auditeurs dans une véritable extase. Des noirs étaient autorisés à monter sur scène, les musiciens jouaient sans partition, ils se lançaient dans des solos improvisés, le corps parfaitement détendu, ils avaient les yeux mi-clos, tandis que leurs bras et leurs jambes commençaient à se balancer, à tressaillir de façon incontrôlable, au rythme de la musique. Tout ça est tiré des témoignages, évidemment, sur lesquels il a travaillé, le précise plus loin. En tout cas, c'est comme ça que c'est raconté. Alors, c'est pas exemple de cliché, évidemment. Tout cela électrisait le public partout où l'orchestre se produisait. C'était l'expression d'un nouvel art de vivre, l'annonce d'une ère encore inconnue, celle du XXe siècle, d'une modernité différente que celle apportée par les mitrailleuses, les sous-marins et les chars d'assaut. Les Harlem Hellfighters passent le 11 novembre 1918 dans un camp des Vosges où ils se reposent après 180 jours d'engagement militaire ininterrompu. L'officier Arthur Little décrit l'instant de contentement tranquille où, à 11h tapante, heure française, la guerre s'achève pour son unité. Un interprète français a rejoint les combattants américains avec deux bouteilles de champagne, on trinque, avec soulagement mais sans exubérance. Rien à voir, comme le relate Little dans ses mémoires, avec la frénésie qui éclate ce jour-là à New York, Londres ou Paris. L'armistice apparaît comme un moment de calme, de lumière, où le poids des responsabilités qui pèsent sur les épaules du commandant depuis des semaines tombe d'un coup. Amusés, les hommes de Harlem regardent les Alsaciens en costume folklorique descendre en masse dans la rue et arroser au Riesling la fin de l'occupation allemande. Le lieutenant-colonel Hayward exprime bien ce que tous ressentent. Le jour de la naissance du Christ a été le plus grand jour de l'histoire mondiale, et celui-ci est le second. Voilà. Donc on a une première... Alors ça, c'est vu effectivement des troupes de base, et de base afro-américaine, donc c'est un point de vue particulier. Alors je vais pas lire parce que c'est un peu long, mais il y a un des personnages qui est très intéressant, qui est en fait qui est en fait un des fils du livre, et qui est en fait un homme politique allemand. Alors, je retrouve son nom, qui s'appelle Matthias Herzberger, alors qui est pas très connu, pour un Français qui s'intéresse à ça, mais il a une trajectoire intéressante parce qu'en fait, ça a été un des négociateurs envoyés par le Kaiser auprès de Foch pour négocier justement l'armistice. Il est effaré par les conditions que lui fait Foch, alors qu'ils sont racontés là, pareil, à partir des mémoires de Foch, hyper intéressant, donc dans le. L'avant-wagon de rotonde et l'espèce de caractère implacable de Foch qui veut les faire morfler et qui n'accepte aucune condition que ce soit du point de vue des Allemands.
Zéro compromis.
Et ce Herzberger a une trajectoire qui va être intéressante parce qu'au fond, c'est un fonctionnaire prussien assez typique et assez honnête, pour le coup. C'est un peu l'homme du devoir, tu vois. C'est-à-dire que le gars, c'est le plénipotentiaire du Kaiser. Donc, il se prend dans les dents, effectivement, l'intransigeance de Foch. Il sait pas comment faire. Il sait pas comment rapporter ça à l'état-major allemand. Parce que, si tu veux, c'est, en fait, il y a des réparations qui sont extraordinairement élevées. Il y a l'occupation de la Ruhr, à la clé, hein, évidemment. Donc, le déplacement de la frontière. Évidemment, la récupération de l'Alsace et de la Moselle. Mais le coût des reconstructions est apparemment exorbitant. Et t'as aussi des exigences de désarmement qui sont colossales. C'est-à-dire qu'effectivement toute la flotte allemande était censée partir en Angleterre, désarmement et livraison des armes. Des blindés, des armes, y compris des armes de poing, à 80% du côté de la France, etc. Et donc il se retrouve à gérer ce truc-là. Bon, il va le gérer tant bien que mal, plutôt mal que bien d'ailleurs. Et en fait, après, c'est quelqu'un qui va passer au service de Weimar. Donc, si tu veux, il va vivre la chute de l'Empire. Alors ça, je vais vous lire le passage, parce que la chute du Kaiser, c'est quelque chose.
C'est un fonctionnaire, quoi.
C'est un fonctionnaire.
C'est un haut fonctionnaire.
Ouais, sauf que c'est pas un opportuniste, parce que le mec s'est tapé tous les dossiers de merde, en fait, à gérer sur les deux décennies. C'est-à-dire qu'en fait, il va bosser pour Weimar, mais il va devenir ministre de l'économie, tu vois, ministre de l'économie de Weimar, et il sait très bien qu'il va au carton. Donc, le mec, il est ministre de l'économie dans le cadre des réparations. Il va être, mais vomi par l'extrême droite nationaliste qui en fait l'accuse en fait de faire le lit des vainqueurs, etc. Il va échapper à un nombre de tentatives d'assassinat faramineux. Il va être poursuivi en justice et lui-même va être désavoué dans un premier jugement parce qu'il est traîné dans la boue par des pamphlets nationalistes et d'anciens combattants. Et finalement, il se fait assassiner par des anciens combattants nationalistes ultra. Donc il a une fin assez triste. Et il est vraiment, si tu veux, voilà, en même temps, tu sens que le gars est de bonne volonté à chaque fois. Il se retrouve dans des situations qui sont absolument ingérables et où il y a une marge de manœuvre qui est réduite à rien systématiquement. Et il fait, voilà, bon, ce qu'il peut à chaque fois, voilà, pour, donc c'est un personnage qui est assez intéressant. Et effectivement, l'auteur a fait le choix, en fait, de raconter, en fait, l'armistice de son point de vue. Et si tu veux, on le voit qui part des lignes allemandes, si tu veux, d'un état-major qui est encore, qui sent que ça va mal tourner, mais qui est pas encore, si tu veux, au fond du gouffre, et qui traverse toutes les zones de combat, tous les villages détruits, etc. Et il voit effectivement comment l'ambiance, effectivement, commence à l'écraser au fur et à mesure, si tu veux. Et à la fin, effectivement, il se retrouve face à face avec Foch, et là, il découvre l'ampleur du désastre à suivre, quoi. Donc, en fait, t'as ce personnage-là. On est encore au tout début, là, vous voyez, donc il y aurait effectivement beaucoup, éventuellement, d'extra à lire. On va peut-être faire une petite pause, et puis ensuite, j'en choisirai peut-être un ou deux plus courts, là, si je peux trouver, là, et puis on...
De toute façon, il s'agit de donner un avant-goût.
Voilà, c'est ça.
Donc, on va faire une pause musicale grâce à José, qui nous a encore choisi un morceau adapté, évidemment. C'est Radio Libertaire qui reprend pour la troisième et dernière partie donc de l'émission Jeudi Noir. Vous venez d'entendre un morceau qui s'intitule Entre deux guerres, Entre deux guerres, un morceau allemand, 1991. Et justement, on vous parle d'un bouquin qui parle de l'entre-deux-guerres, puisque c'est juste après la guerre de 14-18. Il s'intitule Le temps des comètes de Daniel Schoenflug. Et c'est édité chez la librairie Vuibert. Donc, dans une première partie, Jean-Mathias nous a présenté un peu le projet d'ouvrage, c'est-à-dire une espèce de livre d'histoire, c'est pas un roman, choral, qui va prendre le point de vue de tout un tas de nombreuses personnes dans l'après-guerre.
Célèbres ou pas.
Célèbres ou pas, qui ont un grand impact ou pas, mais qui dessinent justement ce monde d'après-guerre plein d'espoir qui vont s'écraser au sol un peu comme la météorite de Klee citée au début du livre. Et donc là tu nous avais présenté le destin de trois personnages.
Oui, le début, hein,
de
militaires afro-américains de l'armée américaine.
Et puis un fonctionnaire allemand qui finit assassiné par l'extrême droite.
Tout à fait. Et alors il y aurait plein de passages comme ça à lire, etc. Alors il y en a un peut-être un petit peu long, mais je vais quand même le lire parce que je trouve qu'il est assez bien écrit. C'est en fait la description de la chute de l'empire, en fait, hein, de l'empire allemand en l'occurrence. Alors vu du point de vue du prince héritier, donc celui qu'on surnommait le Kronprinz, hein, le fils de l'empereur, celui qui était destiné à lui succéder, et qui est un des personnages effectivement qui va passer une bonne partie de sa vie en exil en Hollande, du coup après la chute de l'empire, et qui en fait va revenir en Allemagne un peu avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir en tant que simple particulier, que Hitler va mettre en avant au tout début du régime, hein, notamment à la cérémonie d'intronisation où il devient chancelier, où là il est à la droite d'Hitler carrément, et en fait qui va disparaître complètement après Hitler, prenant évidemment un soin méthodique à le faire disparaître, aux oubliettes de l'histoire. Le Kaiser lui-même n'est jamais rentré de Hollande, hein, il est resté en Hollande, il n'a jamais eu l'autorisation de revenir, non.
Il
est mort assez vite, oui, et le Kronprinz, pareil, évidemment, n'a eu aucune responsabilité dans le régime, il a servi évidemment de caution à l'instant T où Hitler en avait besoin, mais après a dégagé. Alors, comment ça chute, cette espèce de... cet empire prussien, là, qui était en fait la puissance militaire majeure, hein, sur le continent européen avec la France, mais depuis 50 ans. Alors c'est raconté comme ça, donc on est en page 92 dans le livre là. En ces matinées de novembre, le prince héritier Guillaume de Prusse se réveille après un sommeil agité. Il s'inquiète pour son avenir, pour celui de la dynastie des Hohenzollern, donc la famille impériale prussienne, et de l'Empire allemand. Il a pris l'habitude depuis son enfance que d'autres définissent ses priorités à sa place et il devrait à présent prendre une décision tout seul. L'instant de l'exercice personnel du pouvoir auquel était censé le préparer l'éducation reçue depuis son plus jeune âge, mais qui lui paraissait jusqu'alors si lointain, serait-il arrivé ? Dès le 7 novembre, Guillaume a pu observer de ses propres yeux les signes avant-coureurs de temps nouveau. Sur la route de Givet, dans les Ardennes, où il rend visite aux troupes, il passe devant un train occupé par des soldats. Là, il voit pour la première fois le symbole de la Révolution, le drapeau rouge. Par les fenêtres brisées du wagon résonne le mot d'ordre du soulèvement. Licht aus, Messer raus. Éteignez la lumière, sortez les couteaux. Guillaume demande à son chauffeur de s'arrêter. D'une voix forte, il ordonne aux soldats de descendre du train. Plusieurs centaines d'hommes en uniforme déguenillés obtempèrent. Un grand sous-officier, c'est entre guillemets, c'est une citation de ses mémoires, de Kronprinz. Un grand sous-officier bavarois à l'allure décontractée, les mains profondément enfoncées dans les poches de son pantalon, l'image même de l'insubordination, dit le Kronprinz, se plante devant lui. Bombant le torse, Guillaume l'apostrophe du ton de commandement qu'il a répété depuis sa jeunesse. « En position, rugit-il, comme il se doit pour un soldat allemand. » Les anciens réflexes n'ont pas encore disparu, le bavarois braque les yeux droit devant lui, les doigts sur la couture du pantalon. Immédiatement, l'ordre est rétabli et un jeune gaillard décoré de la croix de fer vient même présenter ses excuses au nom de ses camarades. Ça fait 3 jours qu'ils sont en route et ils n'ont rien à manger. « Nous vous apprécions tous beaucoup, ne nous en veuillez pas, » dit-il. Ému, le prince héritier offre des cigarettes aux révolutionnaires en herbe. Le lendemain, donc le 8 novembre, hein, Guillaume reçoit de sa majesté son père l'ordre de le rejoindre à Spa. Il traverse par un épais brouillard une campagne ravagée par la guerre. Le 9 novembre, peu avant midi, il atteint la villa La Fraineuse aux portes de la ville. Un industriel s'était fait construire cette demeure peu avant la guerre sur le modèle du petit Trianon de Versailles. Alors là, on est bien dans le monde d'avant. Hein. À son arrivée, Guillaume est accueilli par son chef, le comte von Schulenburg, pâle, visiblement très, très ému, nous dit l'héritier. En quelques mots, il expose la situation au Kronprinz. Des entretiens ont lieu avec Guillaume II à la Fraineuse. Depuis le matin, les débats sont principalement dirigés par Wilhelm Gröner, qui assiste désormais Hindenburg à la tête de l'armée. n'appartenant pas au cercle des anciens fidèles de l'empereur, il s'est adressé au monarque sur un ton que ne se serait jamais autorisé son prédécesseur, Erich von Ludendorff, lequel, à la suite de l'armistice, quittera précipitamment l'Allemagne pour la Suède affublée d'une fausse barbe. Gröner a tracé une image implacable de la situation militaire et intérieure du pays. Les tensions sont au plus vif à Berlin, où tout peut exploser à tout moment et faire couler des flots de sang sur la ville. Là, on parle de révolution, hein. On ne peut envisager d'envoyer l'armée vaincue défendre la capitale contre la révolution. Gröner ne l'a pas dit clairement, mais sa description ne permet qu'une conclusion. L'empereur doit céder à la pression de l'étranger et de la rue pour étouffer le mouvement révolutionnaire dans l'œuf. Guillaume II, affirme Schulenburg, a été ébranlé, mais a écouté sans mot dire l'exposé du général. Schulenburg lui-même a ensuite pris la parole pour peindre un tableau plus optimiste. Il a suggéré qu'on cherche à gagner du temps sur le front pour permettre aux troupes de reprendre des forces. Un recours mesuré aux armes pourrait sans doute éteindre les foyers révolutionnaires. Mais Gröner n'a rien voulu entendre. Il a présenté un dernier argument, atterrant. Même si Guillaume II ordonnait aux troupes de marcher sur Berlin, elles ne lui obéiraient plus. L'armée, corps des officiers compris, n'est plus derrière l'empereur. Guillaume II exige des preuves. Il ne se verra battu que si les officiers lui faisaient savoir par écrit qu'il refusait de le suivre. Or, les dernières nouvelles en provenance de Berlin ont confirmé les propos de Gröner. Les combats de rue sanglants, des troupes débordées, aucun moyen de réprimer la révolution qui fait tache d'huile. Après avoir écouté ce rapport, le prince héritier Guillaume pénètre dans le jardin automnal de la villa où les vieux arbres ont déjà perdu leurs feuilles et où les massifs ont depuis longtemps été bêchés. L'empereur en uniforme se tient au milieu d'un groupe d'hommes. Ceux-ci sont, entre guillemets toujours, voûtés, abattus, comme convaincus de l'absence d'issue, figés dans un silence hébété. Désormais, le seul à parler, c'est l'empereur. Apercevant son fils, il lui fait signe d'approcher. De près, le prince héritier remarque que son père semble hagard et que les traits de son visage, maigre et jaune, tressaillent et tremblotent. Citation. Comme un torrent de mots jaillissent de la bouche du monarque pour culminer dans la constatation résignée qu'on lui interdit à lui, l'empereur, de se rendre une fois encore sur le front pour se battre et mourir à la tête de ses troupes. On craint en effet qu'une telle initiative ne compromette les négociations de l'armistice. En cet instant, le prince héritier est bien obligé de constater que l'empereur n'est plus maître de la situation. Il l'adjure. Les Hohenzollern ne peuvent en aucun cas renoncer à la couronne royale prussienne. D'une voix frémissante, il invite son père à l'accompagner jusqu'au groupe d'armée, Deutscher Kronprinz, le sien. À sa tête, le monarque et l'héritier du trône pourront côte à côte retourner dans leur patrie. Schulenburg approuve le prince héritier. Le gros de la troupe respectera son serment de fidélité au drapeau à l'empereur et à la patrie et suivra son commandement jusqu'à la mort s'il le faut. Mais Gröner hausse les épaules. Serment au drapeau? Commandant? Ce ne sont que des mots, qu'une idée en somme. Deux univers se heurtent de plein fouet, celui de l'ancien empire reposant sur les vertus de fidélité et d'obéissance, et le monde moderne plus flexible, plus pragmatique. Guillaume II est devenu pâle comme un linge. En quête d'appui, son regard se pose sur Hindenburg, mais celui-ci, immobile, garde les yeux rivés au sol. Dans ce parc de Belgique, se dresse l'empereur allemand, l'incarnation de la loi, le commandant suprême de l'armée, le fondateur de la marine de guerre allemande, le souverain qui a voulu donner à l'Allemagne sa place au soleil, lui accorder toutes les prérogatives, tous les pouvoirs. Et voilà que cet homme baisse les bras. Ça fait trop longtemps qu'il se laisse dicter tous ses faits et gestes par ses généraux et par ses conseillers pour qu'en cette heure décisive, il soit en mesure de reprendre l'initiative. La dissolution de l'Empire allemand, pourtant forgée pour l'éternité, et celle de son orgueilleuse armée paraissent trop avancées pour qu'il puisse assumer de force la direction des affaires. Le monarque est trop faible, trop fatigué, trop perturbé par une situation qui ne ressemble en rien aux visions de grandeur et de pompe que le pouvoir impérial a incarné pour lui pendant toute sa vie. D'une voix rauque, Guillaume II donne l'ordre de téléphoner à Berlin pour faire savoir au chancelier du Reich, Max de Bade, qu'il est prêt à renoncer à la couronne. Mais uniquement à la couronne impériale, ça va sans dire, il reste roi de Prusse, et en tant que tel, il a bien l'intention de reconduire son armée. L'assemblée entre dans la maison pour prendre un petit déjeuner, qui a tout d'un repas d'enterrement. Après cette collation, une nouvelle plus scandaleuse encore arrive de Berlin. Sans consulter Spa, le chancelier Max de Bade a proclamé l'abdication de l'empereur allemand et roi de Prusse, en même temps que le renoncement du prince héritier au trône. Le communiqué a déjà été diffusé par le bureau télégraphique Wolf. Par ailleurs, un nouveau gouvernement s'est constitué dans la capitale, donc c'est la naissance de Weimar. Hein. La révolution d'en bas vient d'être couronnée par une révolution d'en haut. L'empereur Guillaume est hors de lui, mais totalement impuissant. Ainsi prend fin la monarchie allemande. Sans combat héroïque, sans mots, ni gestes grandiloquents, l'empereur, dont la famille exerce le pouvoir depuis un siècle, se soumet avec fatalisme à son destin. Il n'y a pas fallu grand-chose, puisque 4 années de guerre ont suffi à affaiblir l'empire et à le conduire au bord de l'effondrement. Cet échec a mis en lumière l'incompétence de sa direction, la défaite a démoralisé l'empereur et retiré à son régime son prestige et son ultime vestige de légitimité. Soudain, l'homme du juste milieu, comme on l'appelait, n'est plus qu'un vieillard fatigué qui ne fait plus trembler personne. Voilà, sur l'abdication forcée. Alors peut-être, s'il nous reste 2-3 minutes, je dis...
J'ai dit une bêtise, je crois, parce que il me semblait qu'il était mort relativement vite après la guerre. En fait, non, il est mort en 1941.
Oui, c'est ça, en 41.
Il n'est pas mort, il a vécu Hollande, un certain temps, la honte de la défaite.
Alors,
c'est intéressant ce passage, parce que, je sais pas, quand vous étiez jeune au lycée, quand on voyait la fin de la guerre de 14, je me demandais justement où était passé
le Kaiser. Il est en Belgique.
Et en fait, il était en Belgique ou dans un coin comme ça. Et effectivement, là, c'est amusant de voir l'espèce de chute où le type se retrouve complètement en apesanteur.
C'est ça.
Il avait un pays qui l'obéissait au doigt et à l'œil, et puis d'un coup, il n'y a plus rien.
C'est ça. Et la révolution à Berlin et un gouvernement qui le destitue. C'est alors ça. Que lui-même était en train de voilà. Alors pour terminer peut-être, alors il y aurait beaucoup de passages. Bon, ça donne une idée un peu du style, voilà. Mais je vais lire peut-être les dernières pages parce que là, pour le coup, on n'est plus dans la grande histoire. Hein. On retourne effectivement. Alors ça, c'est la chute qui en fait présente le personnage. Enfin. Conclut sur le personnage de Rudolf Höss, donc un ancien combattant aussi, et qui sera le futur commandant d'Auschwitz. Le livre le dit à la fin. À la fin, il y a une petite notice sur tous les personnages, mais ils disent la suite, hein, si tu veux. Voilà. Mais le livre se finit sur cette page-là, et je trouve qu'elle est assez éclairante pour cadrer effectivement et justifier la périodisation qui est choisie par l'auteur, là. Alors, donc là, on est en 23, on est donc un monde après, bien plus tard. Dans la nuit du 31 mai 1923, Rudolf Höss et ses camarades sont à Parchim, dans le Mecklembourg, au nord-est de l'Allemagne. Les membres du groupe de Rosbach sont ivres et fous de rage. Quelques jours auparavant, un des leurs, Albert Leo Schlageter, a été condamné à mort et exécuté par l'armée française d'occupation en Rhénanie.
C'est un personnage très important dans l'histoire du nazisme allemand, Schlageter, parce que c'est le premier martyr du
exactement.
Nazisme. Il a donné lieu à des pièces de théâtre.
Exactement.
Il y a toute une propagande pas possible dans les années 20 et 30. Enfin bon.
Et bah c'est donc, il était membre de ce groupe de Höss. Alors, on reprochait donc à Schlageter des actes de sabotage et surtout des attentats à l'explosif contre le régime d'occupation. Les hommes du corps franc pensent avoir démasqué le délateur. C'est un certain Walter Kado, un membre de leur groupe que les autres n'apprécient guère et qui tiennent pour un espion. Les anciens combattants n'éprouvent que mépris pour la République et ses forces de l'ordre. Ils sont certains que le nouveau gouvernement qui collabore avec les Français ne cherchera pas à élucider les dessous de l'affaire Schlageter. Ils ont donc décidé de rendre justice par leurs propres moyens sur le modèle d'antiques institutions allemandes. Ça, c'est une formule de Höss dans ses mémoires. Assis avec quelques compagnons dans une auberge de Parchim, Kado est en train de boire copieusement. Höss et quelques-uns de ses camarades y voient une bonne occasion de flanquer aux traîtres une solide dégelée. À leur arrivée à la taverne, ils trouvent Kado ivre, affalé sur un canapé. Höss est armé d'un revolver, les autres de coups de poing et de matraque en caoutchouc. Ils embarquent Kado et le jettent dans leur véhicule avant de prendre la route de la forêt où ils le font descendre brutalement. Ils cherchent à fuir, mais Höss l'immobilise en tirant en l'air. Les hommes entreprennent alors de passer Kado à tabac. Höss le frappe même à la tête avec un jeune arbre qu'il a déraciné. Que faire de l'homme ensanglanté à moitié mort? Faut-il laver ses plaies et le conduire à l'hôpital? Höss a une autre idée. Il ordonne à ses compagnons d'enterrer Kado dans les bois. Ils hissent la victime, enveloppée dans sa pèlerine, à l'arrière du véhicule et s'enfoncent plus profondément dans la forêt. Lorsqu'ils arrivent à un endroit approprié, ils déposent Kado au sol. Un des hommes lui tranche la carotide d'un coup de couteau. Comme il bouge encore, Rudolf Höss l'achève d'une balle dans la tête. Les assassins recouvrent sommairement le corps et nettoient le véhicule. Ils reviennent sur les lieux le lendemain matin pour enterrer correctement le cadavre et effacer toute trace de leurs activités nocturnes. Dans ses mémoires rédigées en rétention après 45, Höss revient sur ce crime et expose sa motivation. 2. Aujourd'hui comme hier, je suis fermement convaincu que le traître avait mérité la mort, puisque de toute façon aucun tribunal allemand ne se serait décidé à le condamner. C'est nous qui l'avions jugé, selon une loi non écrite que nous nous étions donnée à nous-mêmes en nous conformant aux exigences de l'heure. Fin de citation et fin du récit. Pourquoi ça me paraît intéressant? Parce qu'en fait, on voit qu'on a une parenthèse qui se referme et que d'une certaine manière, toute la brutalité qui a été accumulée, l'espèce de sauvagerie libérée par la Première Guerre mondiale, elle est intacte. Elle est intacte, sauf qu'elle est assumée comme telle, d'une certaine manière, par des gens qui, comme Höss, vont du coup devenir évidemment les cadres de la SS et du génocide à venir. Donc voilà, on est 10 ans avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir là. On est en 23. Bon, tout est déjà à peu près en place. Donc voilà pour ce livre. Alors je signale au passage qu'il y a
ça donne le titre.
Ouais. Alors donc, c'était Le Temps des comètes de Daniel Schoenflug aux éditions Vuibert. Donc c'est 5 années entre 1918 et 1923. Et je signale au passage qu'il y a en ce moment là au Centre Georges Pompidou, c'est jusqu'au 5 septembre, une exposition sur l'Allemagne des années 20 et sur les mouvements artistiques, mais qui permet d'avoir une espèce de perspective un peu visuelle et artistique. artistique sur cette période-là, qui est assez bien décrite aussi dans le livre, hein, autour des personnages de Gropius, de Gross notamment, et de quelques autres. Donc voilà pour ce livre, Le Temps des Comètes, là, que j'ai essayé de vous présenter ce soir.
Les deux gens coupés net par une plaque d'obus.